ici, il y a de temps Carrefour chez...
C'est quoi ce bordel, là? Gendarmerie nationale!
Arrête les schmitts! Vas-y, mon pral, percute les quatre clés, mon pral!
Arrêtez un peu les conneries, là, non?
Rien n'est moins sûr ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question du Nord, de Gitan, de P38, de Bêtes Humaines, de Chiderman et même d'Alpina. Plateau télé avec Bruno Dumont qui signe Le Petit Quinquin, une série de comédies pour Arte, ou Comment élever le farfelu au rang des beaux-arts avec une enquête dans le Nord à la recherche du diable. Lucille Comeau.
Portrait d'un cinéaste qui cherche par le comique à pénétrer des zones limites où la pensée morale n'a pas droit de citer.
19h30, chronique cinéma avec Jean-Marc Lalanne qui met ce soir à son programme La vie de Claude Brasseur. 19h35, plateau BM avec Jean-Charles Hue qui signe, qui réalise Mange tes morts, tu ne diras point. Une double initiation pour un adolescent yéniche entre tchourave et spiritualité. Lucille Comeau.
Retour sur le parcours d'un réalisateur qui filme les camps de gitans sous la lumière blanche des westerns américains.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le nouveau journal de la culture de Zoé Sfers.
Réformer, c'est affirmer des priorités en refusant l'austérité. Et j'ai déjà eu l'occasion de le souligner ici même. Quand nous préservons le budget de la culture pour la création et le spectacle vivant, nous ne faisons pas de l'austérité. Oui, nous refusons le choix de l'austérité.
Il date d'hier, votre son du jour, Zoé Sfèze.
Oui, je suis méchante. Vous l'avez reconnu, notre Premier ministre Manuel Valls, qui, comme vous le savez certainement, a redemandé un vote de confiance au Parlement, qu'il a obtenu. Et dans son discours, eh bien, vous l'entendez, il a garanti que le budget de la culture serait maintenu, alors que certains craignaient qu'il soit revu à la baisse.
Et pour votre dossier du jour, eh bien on quitte la France pour l'Écosse. Les Écossais doivent se prononcer demain par référendum sur la question de l'indépendance. Et dans la bataille qui fait rage entre partisans du oui et du non, eh bien les artistes sont en première ligne.
Tout à fait, à commencer évidemment par les artistes écossais, avec dans les partisans du oui, des chefs de file stars comme Sean Connery, qui ne manque pas une occasion de se montrer en kilt, ou la créatrice Vivienne Westwood, dont les défilés en cette période de Fashion Week étaient carrément aux couleurs de l'Écosse. Très mobilisée aussi la scène rock et électro de Glasgow, avec des groupes comme Mogwai, Franz Ferdinand ou encore Hélène Marny, leader du groupe Ladytron. Elle a lancé sa carrière solo tout récemment avec un titre justement pro-indépendance. Pour elle, le oui est la seule réponse possible. Écoutez-la.
Je pense que l'atmosphère en Grande-Bretagne est mauvaise en ce moment. Et beaucoup des décisions qui sont prises ne sont pas bonnes pour l'Écosse. On est dirigé par les Tories. Ce parti ne s'est jamais préoccupé de l'Écosse. Et je pense que si on avait plus de contrôle sur nos ressources, on pourrait améliorer les choses dans notre pays. Et pour moi, c'est important de faire partie de l'Europe. Et avec la Grande-Bretagne, on risque d'en sortir. Ce serait une très mauvaise chose pour moi.
Mais il y a aussi les partisans du non, des artistes qui ne voient pas du tout les choses de la même façon.
Alors on s'en doute, ils sont majoritairement anglais et ils ont lancé une campagne intitulée « Stay with us », restez avec nous. Le dessinateur Glenn Baxter l'a rejoint. Je lui ai demandé pourquoi.
Parce que je suis socialiste et que s'ils votent oui à l'indépendance, c'est la fin du Parti socialiste en Grande-Bretagne. Et puis je n'aime pas le nationalisme rampant que propose Alex Simons. Le nationalisme qui mène au triomphalisme et à la bigoterie. Nous, les artistes, on en a marre de ces gens qui brandissent des drapeaux pour servir leur ambition personnelle.
Et Glenn Baxter n'est pas le seul à avoir signé pour cette campagne. D'autres stars ont pris position.
Oui, liste non exhaustive des géants comme Paul McCartney, Kate Moss, David Beckham, David Bowie, évidemment j'en passe. Un engagement qui, selon la chanteuse écossaise Hélène Marny, n'a pas beaucoup de sens.
Tous les artistes que je connais à Glasgow, les cinéastes, les dessinateurs de mode, les musiciens sont tous ouvertement pour le oui. Après, ça me fait rire les grosses stars comme David Beckham ou David Bowie qui se disent contre. Je crois que David Bowie vit à New York et David Beckham à Los Angeles et à Londres. Ils sont privilégiés, donc ils peuvent donner leur avis, mais pour moi, il n'est pas pertinent. Ils ne voient pas ce qui se passe en Écosse et ils ne connaissent rien à ce que les Écossais vivent au quotidien.
Et alors, on trouve, c'est vrai, assez peu d'artistes écossais pour prendre position contre l'indépendance, à deux exceptions près, des exceptions notables. Deux écrivains, la romancière J.K. Rowling, qui, comme vous le savez certainement, est la créatrice d'Harry Potter, qui vit à Édimbourg, et Denis Mina, l'une des plus grandes stars du tartan, le polar écossais, polar dans lequel elle met en scène systématiquement sa ville, Glasgow. Elle considère que l'Écosse, en devenant indépendante, va droit dans le mur, mais prendre publiquement position pour le non équivaut, selon elle, à un véritable coming out et tout le monde ne peut pas se le permettre.
Vous savez, ici, tout le monde se connaît. Le cercle artistique est tout petit et c'est mal vu d'être contre l'indépendance. Pour recevoir des subventions publiques, il faut être dans le coup, aller aux fêtes. Et dans ce contexte, c'est dur d'affirmer une position minoritaire. Moi, je suis un auteur à succès de BD, de polar, donc je peux me le permettre, ça ne me fait pas peur. Mais j'ai des lecteurs qui m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient déçus d'apprendre que je n'étais pas nationaliste. Je ne sais pas où ils ont vu ça dans mes livres. Oui, j'écris sur Glasgow, mon identité écossaise m'inspire, mais ça ne veut pas dire que je dois être nationaliste ni détester les Anglais.
Alors, est-ce que les Écossais sont nationalistes, détestent les Anglais, indépendance ou pas ? Verdict demain.
Peut-être qu'il y a une réaction de la part de nos invités, Bruno Dumont, Jean-Charles Hue.
Moi, je suis pour l'indépendance des Écossais, je trouve ça très très bien.
C'est vrai ?
C'est tout.
Qu'est-ce qui motive cet avis, cette position ?
Je trouve que les idées d'Europe, tout ça, ne sont pas des bonnes idées. Ce n'est pas des belles idées politiques. On n'y comprend rien. On n'a pas envie de ça. Je pense que les gens ont envie qu'on s'occupe d'eux, de leurs particularités, tout ça. Donc le vrai sens des choses, c'est les particularités. Donc l'indépendance de l'Écosse, je trouve ça formidable.
Jean-Charles Hue ?
Oui, pareillement. Moi, je vois plutôt ça d'un bon œil, cette histoire d'indépendance. Et puis, ce qui me fait un peu sourire, c'est une réflexion sur les Beckham. Je trouve ça assez drôle. Je ne sais pas si Madame Beckham était sur des talons aiguilles lorsqu'elle a dit ça, puisque je me souviendrai toujours de cette scène assez incroyable de Madame Beckham à Los Angeles, qui était poursuivie par 10 voitures comme ça de paparazzi. Elle se fait arrêter par un flic qui rigole pas, comme tous les flics américains. Elle fout les mains sur le capot, elle est fouillée, tout le monde s'arrête, il manque d'écraser des gens à cause d'elle. Et puis, elle est interviewée tout de suite après, et elle dit à ce moment-là, j'ai paniqué. On se dit, pourquoi ? Et en fait, parce qu'elle s'est dit, je me suis dit, mon Dieu, je n'ai pas de talons aiguilles. Alors, vu sa réflexion, je pense que son opinion sur l'Écosse était beauté en touche.
Très bien. On poursuit avec les brèves et l'on ouvre avec LCI, la chaîne d'infos payantes de TF1, intéresse sérieusement qui ?
Le trio d'actionnaires du Monde, Xavier Niel, Pierre Berger et Mathieu Pigas, qui indiquent qu'ils ont écrit au PDG TF1, non Spaolini, pour détailler leur offre, sans toutefois préciser ni le prix ni le nombre de salariés qu'ils voudraient reprendre. On sait seulement qu'ils seraient prêts à reprendre la chaîne sans le nom LCI.
La justice n'en a pas fini avec les fémènes.
Et oui, vous vous rappelez peut-être que le groupe de militantes féministes a été blanchi dans l'affaire des cloches de Notre-Dame, mais le parquet a requis mercredi 1500 euros d'amende contre une fémène qui, elle, avait détruit à coups de pieux la statue de Vladimir Poutine au musée Grévin. Le jugement a été mis en délibéré au 15 octobre.
Une caution record pour le marchand d'art Guy Wildernstein, accusé de fraude fiscale.
La cour d'appel de Versailles va se prononcer vendredi sur le montant de la caution qu'il va devoir verser. Guy Wildernstein, comme on le dit. C'est ce marchand d'art qui a hérité de son père une fortune colossale et qu'il est accusé d'avoir en partie cachée au fisc en la plaçant dans des fonds aux îles Caïmans. La caution demandée pourrait s'élever à 75 millions d'euros. C'est un record absolu.
Et la dernière.
C'est l'histoire d'un festival qui a tourné un peu court cette semaine. J'ai nommé le festival J'aime Zagreb, qui a eu lieu évidemment en Croatie. Festival consacré à la réflexion sur les liens entre le corps et l'espace public. Il est dédié à l'artiste croate Tomislav Gotovac, dont l'un des gestes artistiques forts fut de se promener tout nu dans les rues de Zagreb en 81. Venus du monde entier, des artistes conceptuels étaient cette semaine dans la capitale croate pour montrer leur travail. Problème, il semblerait que Zagreb, la grande, la belle, ne soit pas tout à fait prête pour ce type d'expérience. Trois artistes suisses avaient en effet décidé de faire écho au travail de Gotovac avec un spectacle baptisé La Marche Lente à Poil. Et même si la police avait été prévenue, eh bien, ils ont été arrêtés pour exhibitionnisme au bout de 2 heures. Même problème avec une artiste américano-coréenne dont la prestation consistait à s'endormir sur une place du centre-ville pendant 8 heures. Après à peine une petite heure de sieste, elle a été réveillée et emmenée au poste pour mendicité sur la voie publique. Pour l'exploration de l'espace public, eh bien, il faudra revenir.
Merci Zoé, on se retrouve demain pour la suite de ce journal de la culture. Et tout de suite, eh bien on commence.
Le rendez-vous.
Comment ça va me gonfler cette histoire Carpentier ?
Vous savez mon commandant, je crois que c'est reparti pour un tour.
Ouais, ben vous allez m'ouvrir le cul de la vache, je veux voir ce qu'il y a dedans.
Rien que de les réécouter, ça me fait rire. Plateau farfelu avec vous, Bruno Dumont. On vous connaît au cinéma avec 7 longs métrages, La vie de Jésus, Flandre et dernièrement Camille Claudel, 1915. Et dès demain, eh bien, c'est à la télévision sur Arte qu'on pourra voir les premiers des 4 épisodes de votre série Petit Quinquin. On vient d'en entendre un très court extrait. L'histoire en 2 mots, c'est une enquête dans un petit village du nord de la France. Le commandant Carpentier, qu'on vient d'écouter, et son adjoint retrouvent une une vache écorchée dans un blockhaus qui surplombe la mer. Et dans cette vache, il y a un corps humain. L'enquête se déroule alors sous le regard des habitants du village, les enfants, petit Quinquin et son amoureuse Ève, Aurélie, la grande sœur qui s'entraîne à chanter pour un concours de télé-réalité, un petit cousin, Stillerman, absolument génial. Le temps d'un été dans le soleil blanc de la côte d'Opale, notre réalisateur Toumabou a reconstruit sa petite bande-annonce.
Dis caca, c'est pas parce que c'est les vacances qu'il faudrait faute, hein.
Bah à quoi ça sert les vacances si on peut rien foutre?
Petit caca?
Vraiment, t'en pètes le monde, hein. Viens ici.
Non.
Viens, je te dis.
Non.
Viens ici.
Non.
Eh merde.
Comment ça va me gonfler, cette histoire carpentier?
Mais
quoi ce bordel, là?
Gendarmerie
nationale! Arrêtez un peu les conneries, là, non?
Vous voyez, mon commandant, ce que je vous ai dit? Cette bête n'a pas pu arriver là, toute seule.
Et est-ce que tu penses qu'une vache, elle pourrait rentrer dans un blockhaus?
C'est du sang humain, dans la vache, mon commandant.
Est-ce qu'on peut rentrer dans le cul d'une vache?
Oh, bah non.
Mais où, là?
On est au cœur du mal, là, Carpentier.
La bête humaine, c'est du zoo, mon commandant. C'est du zoo, là.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Alors, on a un corps féminin.
Crayon.
Sans tête.
Il faut la tête, Carpentier.
Pour la famille d'Irène et pour son mari.
Parce qu'il me faut la tête.
Excusez-moi, monsieur. Est-ce que la dame qui est dans le cercueil a l'air collée?
Toi, puis tes copains, là, d'être des petits cons, hein? De toute façon, vous n'avez rien à foutre dans le cimetière. Hein, ça vous fait rire. Bande de petits cons. Ouais, on dégage du cimetière, on n'a rien à foutre là. Bande de petits cons. Dégagez.
Ça vous fait encore rire, hein, Bruno Dumont?
Toujours rire.
Même à l'écouter. À l'écouter. Jean-Charles Hue aussi?
Ah oui, oui, j'adore. Moi, je suis fan.
Vous avez vu?
Oui, bien sûr. Oui.
Ah, déjà. On va en parler. Le ton, on l'entend, c'est celui de la comédie. Dans une interview, Bruno Dumont, vous déclarez « Puisque je veux faire une comédie, allons la faire à la télé ». Ça a l'air extrêmement logique comme proposition. Ça veut dire que le cinéma ne peut pas être pour vous le lieu de la comédie, tel que vous l'entendez?
Pour moi, oui. Il l'est effectivement, mais pour moi, c'était... J'étais dans une veine sûrement très, très sérieuse et ça me paraissait loin. Et je pense qu'effectivement, je l'ai fait, mais je ne m'en suis même pas rendu compte. Je pense que la proposition de la télévision, je ne la comprenais pas forcément. Donc je me suis dit, peut-être par bravade, allons faire quelque chose d'autre. Et puis je me suis lancé, quoi.
Vous pensez que jamais vous n'auriez pu aborder la comédie frontalement à la télévision, alors même que la comédie fait partie de certains de vos films? Je pense par exemple à... Hors Satan, il y a des scènes quand même où la comédie n'est pas absente.
Ça frôle, quoi.
Oui, ça frôle.
Quand même, c'est vrai, austère, mais bon. Voilà, non, pour moi, c'est vrai. Le comique était, en tout cas, il sommeillait à l'intérieur de mon travail, mais c'est vrai qu'il n'était pas, je ne le poussais jamais. Donc, il était. Certains spectateurs le sentaient, d'autres spectateurs ne le sentaient absolument pas. Donc, moi, j'avais vraiment envie d'y aller parce que je pense que j'étais au bord de ça et que le. Et qu'au bout du drame, il y a ça, en fait. Je pense que le grotesque, il a quelque chose de très profond, en l'air, donc, finalement. Et donc, c'est pour ça que j'ai appuyé, en fait, j'approfondis mon travail, en fait. Et quand j'approfondis mon travail, ça devient drôle.
Jean-Charles Hue, vous comprenez justement le fait qu'il faut changer de format pour arriver à un autre état dans le registre que l'on travaille?
Alors, je ne sais pas si je pourrais parler encore en ce qui me concerne de questions de format, parce que je n'ai pas expérimenté encore cette veine, même si je dois avouer que j'ai un projet justement de série télé. Et moi, ça m'arrange bien que le petit Quinquin sorte en ce moment avec quelqu'un comme Monsieur Dumont. Et voilà, puisque je me dis, bah, voilà, c'est tout à fait possible. Et non seulement ça fonctionne, mais c'est super. Donc je pense que ça me servira, si vous voyez pas trop d'inconvénients.
Voilà. Une série dans quel registre?
Bah dans quel registre? Ce sera toujours dans le monde gitan, dans le monde voyageur.
Donc comme vos deux films, oui.
Et moi, en y pensant à l'avance, hein, seulement à l'avance, parce qu'il faut l'avoir fait pour après en tirer des vraies conclusions, mais Voilà, après avoir fait ces deux premiers longs métrages, il y a des choses, tant de choses qui m'ont échappé, puisque c'est dans l'origine d'une communauté. J'ai surtout filmé les hommes, par exemple. Ça me permettrait d'avoir un certain nombre d'heures supplémentaires pour rentrer plus dans l'intimité. Enfin, quand je dis l'intimité, on va dire les caravanes, c'est-à-dire me rapprocher de la question de comment les familles se gèrent. Voilà, je pense que c'est un bon format, pour parler de format, pour prendre plus de temps, être au contact des personnes, des acteurs, enfin en tout cas des personnes.
Donc ça voudrait dire que le cinéma chez vous, c'était l'affaire des hommes pour l'instant, et que la télévision pourrait devenir l'affaire des femmes, comme la comédie l'a été
pour des enfants.
Lucile Comeau.
Mais Petit Quinquin était pour vous l'occasion de travailler un humour typiquement français. Vous dites que cet humour typiquement français, on ne le voit pas beaucoup dans le cinéma. Comment est-ce que vous le définiriez? Quel type de comique c'est, cet humour français, Bruno Dumont?
Vous parlez de mon comique à moi? Je pense que c'est le mien, donc il provient de là. C'est la dérision sur mon sérieux, sur ma gravité, en fait. Je pense que le comique, c'est une explosion de ce qui est sérieux, en fait. Donc chacun fait son comique là où il est. Moi, c'est pour ça que je me suis posé longtemps la question, en voulant faire un film comique, je ne voyais pas tellement ce que je pouvais faire dans le comique français, parce que j'ai pas cette veine-là. Il y a des gens qui font ça très, très bien.
Vous pensez à qui?
Moi, Danny Boom, ça m'a fait rire. Je trouvais qu'il y avait des très belles inventions, il y avait des choses très drôles. Mais je ne me voyais pas faire ça. Donc, en même temps, il travaille un ch'ti qui est un ch'ti qui n'est pas un vrai, qui n'est pas vrai, qui est interprété par des acteurs. Donc, j'avais pas envie de ça, quoi. J'avais aussi envie de faire vaciller, en fait, mes certitudes, en fait. Je me moque de moi, hein. Enfin, je me retourne sur mes films et je les fais sauter, quoi.
Danny Moon, puisque vous le citez, a vu Le Petit Quinquin?
Non, je pense pas.
Pas encore?
Non, mais j'aimerais bien qu'il le voie.
Il y a un film qui vous fait rire, j'imagine qu'il y en a plusieurs, et que vous citez sans arrêt comme référence, c'est Pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est un film de Jean-Daniel Pollet. Comment est-ce que vous décririez les mécanismes de ce comique qui vous fait rire, justement, chez Pollet? Qu'est-ce qui vous fait rire?
Pollet, c'est un comique un peu rentré, c'est un humour un peu glacé, c'est un jeu d'acteur extraordinaire, c'est-à-dire tout est dans l'acteur, et la caméra, elle est posée là où il faut. Donc c'est très fin, en fait, c'est pas de la grosse déconnade, quoi. Donc c'est très subtil, voilà. Il y a une espèce de subtilité, on peut même dire que c'est spirituel. Donc, et le spirituel est drôle, en fait. Et donc, je trouve que Jean-Daniel Pollet, notamment ce qu'il avait déjà fait dans l'Acrobate, c'est vraiment fin, profond. J'avais envie de dire triste aussi, parce qu'il y a quelque chose de très tragique dans ces films, de très beau. Hein, moi, je pense que même Petit Quinquin, c'est une tragicomédie, en fait. C'est drôle, ouais. Et c'est pas drôle du tout non plus. Et c'est pour ça que c'est très drôle. Je pense que Petit Quinquin est très drôle, parce qu'il y a des moments, vraiment, on ne rit pas du tout. Et c'est même glacé, quoi.
Jean-Charles Hue, qu'est-ce qui vous fait rire, vous, au cinéma? Parce que, par exemple, c'est aussi le burlesque travaillé par Jean-Daniel Pollet?
Non, ce qui vient d'être dit, en ce qui me concerne, c'est exactement ça. Pour diverses raisons. Alors moi, j'ai des souvenirs d'un certain cinéma français qui m'a beaucoup fait rire. Moi, j'ai envie de parler de Serra, j'ai envie de parler des Galets de Pont-Aven. Où là aussi, il y a chose de dramatique. C'est-à-dire quand on fait le portrait d'un voyageur de commerce dans sa R16, qui est cocufier... qui fait tout le temps son appareillage de parapluie et voilà. Bon, moi, ce qui me fait rire, c'est déjà, je pense qu'on rit beaucoup dans le milieu dit populaire. On rit beaucoup. Enfin, c'est une espèce de les réflexions du Petit Quinquin. Pour moi, c'est exactement ça. Combien de fois je l'ai entendu dans Le Monde Voyageur. Moi aussi, je suis content que le film que j'ai pu faire, Mange tes morts, soit plus drôle que sa première version, parce que ça aurait été une erreur de faire le portrait d'une communauté qui rit beaucoup. Et puis, effectivement, on rit souvent un peu noir, quoi. C'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire on peut rire sur le dos d'un autre. Et puis, c'est parfois la naïveté cruelle des gens qui... est-ce qu'on peut rentrer dans le cul d'une vache forcément, ça devient fou, parce qu'on pose la question à un grand-père qui représente une forme de sagesse, et puis il lui dit non, on ne peut pas entrer en qu'une vache. Donc voilà c'est ça, je trouve, c'est certainement la chose qui me fait le plus rire, ouais, ça c'est sûr.
Lucile.
Alors tous les jours, on demande à nos invités d'apporter un son qui a un sens particulier pour eux, et vous, Bruno Dumont, vous avez apporté ça.
Hein ? Comment ? Vous permettez.
Hulot.
H-U-L-O-T. Hulot. Va t'abattre.
Alors, identification de ce son.
Bah, c'est pas celui-là.
On s'est gouré, c'est pas vrai.
C'est pas grave. Hein. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est le haut-parleur quand il arrive à la gare. Là.
Ouais.
Il y a un haut-parleur de quai, quoi, avec une voix qui donne des informations.
On comprend rien, d'ailleurs.
Qui est totalement barrée, totalement délirante.
Et pourquoi vous aviez choisi donc cet extrait qu'on vient de pas l'entendre?
Parce que c'est du comique cinématographique, c'est-à-dire qu'il travaille le son, il travaille vraiment les données qu'un cinéaste a dans les mains pour faire rire. Donc, c'est pas simplement purement théâtral, c'est aussi chez Tati, comment il donne du relief au son et comment le son qu'il travaille devient comique parce qu'il se fracasse l'un contre l'autre. Donc c'est ça qui est drôle. Enfin, même on l'a entendu un petit peu dans ce que vous avez passé quand même.
Vous êtes bien aimable.
Justement, à propos de bruitage, vous avez utilisé pour la première fois, je crois, le travail du bruiteur. C'était pour quel type de son, par exemple ?
Bah, c'est la première fois, en faisant même une comédie, que je travaille autant. C'est beaucoup plus précis. D'ailleurs, bon, en général, je ne donnais pas les dialogues aux acteurs. Là, je les donne. Donc, je suis obligé. Il y a quand même une mécanique, il y a une horlogerie du drôle qui ne permet pas beaucoup l'impro, en fait. Donc, j'étais obligé de leur donner les voix. Et puis, même les sons, il était important qu'on les entende. Donc, moi, je travaille avec un son direct. Donc, il y a une perche. Il y a un micro-cravate qui prend le son et on n'entend pas forcément les petits détails. Donc j'ai renforcé. Donc c'est très expressif le comique. Donc j'ai renforcé avec le bruiteur ce que d'habitude je laisse aller en fait.
Jean-Charles, je pense que vous aussi, vous n'utilisez pas de bruiteur pour vos films ?
Si, écoutez, pour une fois, j'ai découvert ce métier formidable.
Ah, vous aussi ? Parce que dans le premier, il n'y en avait pas.
Non, il n'y a pas grand-chose dans le premier, si ce n'est, heureusement, les acteurs. Par contre, on n'a toujours pas de maquilleur, ça c'est tout. Voilà, mais on est passé au bruiteur.
Alors, au centre du film, il faut qu'on parle des comédiens. Il y a le commandant Van der Weyden, qui est joué par Bernard Prouveau. Un visage extrêmement mobile. Ceux qui verront la série sur Arte comprendront de quoi il s'agit. Qui est dans la vie jardinier. Il est sans emploi au moment où vous l'avez trouvé. Comment vous castez vos acteurs ? Parce que c'est vous qui les castez, Bruno Dumont.
En fait, je passe du temps parce que c'est des acteurs qui doivent jouer. Donc, non seulement il faut qu'ils aient le profil.
Des non-professionnels, on est d'accord.
Donc, ouais. Le profil, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait le physique et le caractère. Et à la fin, j'en trouve 4-5 qui ont le physique et le caractère, mais tous ne savent pas jouer. Donc, il y a quand même un texte, il y a une partition, en fait. Donc, il faut qu'ils sachent l'interpréter. Donc, je passe pas mal de temps à vérifier qu'ils sont capables de jouer, en fait. Voilà, c'est ça. Et alors, je les mets ensemble, je les sépare, etc. Je les fais travailler sur des petites scénettes. Et c'est là que je vois que j'ai vu le potentiel comique des personnes. Et donc, je me lance à partir de là, quoi, pas avant. Quoi.
Vous travaillez de la même façon, Jean-Charles Hue ? Vous qui travaillez aussi avec des non-professionnels ?
Le casting, j'ai envie de dire, il est fait à la base. C'est-à-dire que j'ai une chance, j'en reviens toujours pas inouïe, à la fois de vivre une aventure avec des gens depuis 18 ans formidables.
Une famille, hein, les Dorkel,
famille,
on y reviendra.
Ouais. Et les Dober, mais surtout les Dorkel, bien sûr. Et puis, voilà, comme par hasard, j'ai de la chance, ils jouent bien. Voilà. Alors, à un moment, je me suis posé des questions de cet ordre-là. J'ai même pensé vaguement à un moment, dire, tiens, et si je mettais un acteur. Bon, j'ai mis Christian Darmesin, qui est un acteur, on va dire, professionnel, mais bon, qui...
Et Sagamorte, Stevenin aussi.
Alors, oui, ça, c'est plutôt une... C'est parce que c'est un pote. D'accord. Et il voulait vraiment rencontrer les Gitans. Il n'y a personne qui le reconnaît, c'est assez drôle. Voilà, mais sinon, moi...
Je vous le confirme.
Tout, voilà.
Je l'ai vu au générique, je me suis demandé où il était passé.
C'est très bien. Et donc, moi, à un moment, je me suis posé des questions, par exemple, sur le jeune Jason. Je me suis dit, oh là là, c'est quand même le premier rôle partagé avec Frédéric. Voilà, si jamais ça s'écroule, s'il n'est pas assez bon acteur, justement, le film peut juste avec ça s'écrouler. Et ça me tracassait beaucoup. Et puis, à un moment, on m'a dit, mon épouse m'a dit, non, tu peux pas, il faut y aller avec eux parce que ce que tu racontes, c'est la vie depuis 18 ans ensemble. Ça n'aurait aucun sens de ne pas reprendre les mêmes personnes. Voilà, donc effectivement, j'ai repris Jason que j'avais commencé à filmer quand il avait 4 ans et demi, et puis s'en est magnifiquement tiré. Donc voilà, donc moi la question du casting, pour le coup, se pose que relativement. Quoi. On fait ensemble. Quoi.
Alors, vous avez eu une façon, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez travaillé régulièrement, Bruno Dumont, de travailler avec ses acteurs, notamment, vous laissez place à l'improvisation, mais pour autant, vous aviez donné à Bernard Prouveau donc, une oreillette pour lui souffler son texte, et par moment en fait. Mais comment vous définiriez l'équilibre entre les deux, entre cette improvisation et puis le fait de lui souffler quelque chose.
Non, mais qu'est-ce que ça crée ? Improvise pas. Non,
il n'improvise pas. Non, en fait, il ne comprend pas ce que vous lui dites.
Non, alors. C'est qu'il n'a pas appris son texte, c'est qu'il a oublié. Non, c'est plutôt ça le problème. C'est qu'il a, au bout de trois semaines, au départ, ça se passait très bien. Au bout de trois semaines, il était un peu paresseux. Et donc, il s'arrêtait dans la prise. Il dit, ah, bah, j'ai oublié mon texte. Je dis, bon, donc il a fallu trouver un moyen. Et le moyen que j'ai trouvé, c'était de lui mettre une oreillette. Donc, l'oreillette, j'étais le souffleur, en fait. Donc, je lui soufflais. Et c'est pour ça que j'ai amplifié son jeu dégingandé, parce que souvent il m'écoute en fait. Il est en train de m'écouter, vous voyez comme ça, attendre, il bouge la tête, tout ça, c'est parce qu'il attend que je parle.
C'est donc, ce qu'on voit à l'écran, voilà. On voit en train
donc,
de vous écouter.
J'ai vu le potentiel comique que ça pouvait avoir, donc, de temps en temps je tardais à lui parler.
Oui, parce qu'il a les yeux qui roulent, enfin
voilà, il est dans l'attente totale. Je le plantais un peu, vous voyez. Donc on sait, voilà, et il a pris goût à ça en fait, parce que bon, il a dit « ah bah je veux mon oreillette ». Donc il a beaucoup joué avec son oreillette. Mais bon, on a pris le pli de travailler comme ça. Et de temps en temps, il reprenait son texte parce qu'il s'en souvenait.
Mais ce qui renforce véritablement la dimension comique à l'écran. Lucille.
Alors, le cadre du récit, c'est tout de même une enquête policière. De fait, on avance dans la découverte de coupables potentiels, c'est-à-dire dans la découverte du diable, comme le dit le commandant. Et à ce propos, vous dites qu'on passe d'un modèle réaliste à un modèle mystique. Comment est-ce qu'au scénario, concrètement, vous avez travaillé ce glissement-là ?
Parce que moi, je cherche toujours des équivalences, en fait. C'est-à-dire trouver, parce que le mystique, bon, c'est très compliqué, le mystique. C'est très haut, c'est très vaporeux, tout ça. Donc, il faut trouver des équivalences très simples. Une enquête policière, c'est un équivalent, parce que c'est du mystère, en fait. Donc, s'il y a du mystère, le mystique n'est pas loin. Donc, si vous allez dans des zones un peu obscures, un peu mystérieuses, vous finissez par récolter des choses beaucoup plus qui appartiennent à l'au-delà, en fait. Donc moi, je pense qu'en filmant simplement ce qui est visible, pour aller très vite, vous finissez tout d'un coup par basculer de l'autre côté. Mais c'est très mystérieux, je ne sais pas pourquoi, et c'est le spectateur qui le décide, en fait. Donc moi, je suis plutôt un préparateur, et il y a une magie qui va s'opérer, et donc j'essaie d'aborder des zones... Moi, je n'ai pas raconté la fin, mais la fin est assez mystérieuse aussi, mais je pense que ça amplifie justement le mystique des personnes et des personnages.
Alors pour ce passage à la télévision, vous avez lancé un défi à la télévision, c'est-à-dire que vous avez filmé en scope, ce qui est particulièrement opérant, puisqu'il y a des paysages absolument magnifiques et grandioses qui sont redonnés par ce format-là. Pourquoi l'avoir choisi alors même que vous entrez à la télévision ?
Ah non, ils n'ont pas voulu du scope.
Bien sûr, j'imagine.
Ah d'accord, oui.
Bah oui.
Non, ils n'ont pas voulu. Donc j'ai tourné en scope, pas sans leur dire, mais presque. C'est-à-dire, moi, ils m'avaient demandé un certain format. Donc, ils m'avaient demandé de tourner en 1,85. Ils ne voulaient pas du 2,40. Donc, j'ai réussi à négocier un format 2. Donc, demain, ça va être diffusé en 2,0. Mais il existe le format scope. Et quand j'ai vu le scope, moi, j'étais assez surpris même de la puissance que ça pouvait avoir, qui n'était pas du tout la même. Parce qu'à la télévision, je pense qu'on est concentré sur les visages et on est concentré sur ce qu'ils disent. Pour moi, c'est pas forcément une bonne idée, mais les gens de la télévision, ils sont comme ça.
Une dernière question pour vous, Bruno Dumont. Je sais que vous aviez réalisé une pub pour Michoco il y a très longtemps. Et j'ai pu même lire dans un quotidien régional que c'était une pub qui vous faisait pleurer. Pour quelle raison ?
En fait, ce n'est pas une pub. J'ai travaillé pour Michoco, dans l'usine qui fabriquait les Michoco. Et donc, j'ai été profondément bouleversé par le processus. Donc, je filmais à la fois le chocolat, le caramel... Et le moment où le chocolat est monté sur le caramel, je l'ai vu, ça m'a bouleversé, parce que moi, j'étais dans les machines, en fait. Je filmais le caramel, je filmais... Et il y avait quelque chose de narratif, c'est-à-dire je devais montrer comment ça se passait, comment le caramel arrivait sur la planche et comment le chocolat allait tomber. Et j'ai, émotionnellement, j'étais bouleversé. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, en fait, même d'avoir été bouleversé, simplement en filmant... un objet quelconque. Et c'est vraiment comme ça que j'ai appris le cinéma. J'ai appris la puissance que ça pouvait avoir, même en filmant quelque chose de quelconque. Donc la puissance, elle est surtout dans le mécanisme, en fait, et pas tellement dans le sujet, la preuve.
Le rendez-vous. Rendez-vous. La chronique.
Et maintenant, la pie qui chante. C'est vous.
C'est la publicité. Je m'appelle Michoco et je suis sacrée.
Je suis sacrée. J'adorais. Il y avait une pie qui partait comme une fusée. J'adore. Jean-Marc Lalanne, chronique cinéma aujourd'hui avec un acteur et pas un non professionnel.
Non, vraiment un professionnel de la profession, comme dirait Godard, avec qui il a tourné plusieurs fois. Claude Brasseur, qui, je dois dire que j'étais surpris parce que c'est pas un acteur qui existait particulièrement fort dans mon imaginaire, même s'il avait pu localement me toucher dans des films. Et un peu par curiosité, j'ai lu le livre de souvenirs sous forme d'entretien qu'il publie là. Et le livre est extrêmement touchant. Et la première raison pour laquelle j'étais touché par le livre, c'est qu'il a une dimension de saga familiale. Parce que les Brasseurs sont acteurs de père en fils depuis le début du 19e siècle. C'est-à-dire que le premier Brasseur à avoir été acteur, c'est à l'époque du boulevard du crime, du théâtre, boulevard du temple dans les années 1830. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est qu'aucun de cette dynastie en fait, ne s'est jamais appelé Brasseur. C'est-à-dire que le premier a décidé que son pseudo, son nom de scène serait Brasseur. Et chaque fils ou fille a endossé le pseudo de la génération précédente. Et ce pseudo, comme une franchise familiale, s'est transmis sur près de 150 ans. Donc c'est assez joli. Et cette dynastie, elle mène donc aux parents de Claude Brasseur, qui sont Pierre Brasseur, le grand acteur des années 30 aux années 60, qui a tourné avec Carnet, Grémillon, qui est génial dans Les yeux sans visage de Franju. Ce qu'on sait moins, c'est que la mère de Claude Brasseur était aussi une star, qu'on a un peu plus oublié, qui s'appelait Odette Joyeux, et qui dans les années 40 était l'égérie des meilleurs films de Claude Autant-Lara, de Douce, Le mariage de Chiffon. Et toute la première partie du livre est assez poignante parce que c'est vraiment la jeunesse d'un garçon qui se sent extrêmement négligé par ses parents, dont il fait un portrait comme deux grands égocentriques, et qui va même développer une sorte de rapport de rivalité. Et un des climax dramatiques du livre, c'est un déjeuner chez Lib dans les années 70 à la brasserie, la célèbre brasserie parisienne, où Claude Brasseur vient de tourner la série télé Vidocq, qui l'a rendu extrêmement populaire. Et il est face à sa mère, qui, elle, n'a pas tourné depuis 20 ans. Et il y a quelqu'un chez Lib qui reconnaît Claude Brasseur, qui vient lui dire « Monsieur, je vous admire beaucoup », qui lui demande un autographe. Et là, il décrit de manière vraiment très, très poignante le visage terrassé par la souffrance de sa mère, qui ne se réjouit pas du tout du succès de son fils, mais qui est extrêmement jalouse, en fait, et qui a le sentiment que son fils lui a pris quelque chose. Donc c'est assez poignant. Il y a aussi des choses très joyeuses et beaucoup plus positives dans le livre. Il y a notamment une très, très belle histoire d'amitié avec Belmondo, qu'il a connu à 20 ans. On se demande même s'il n'est pas amoureux de Jean-Paul Belmondo. Il le décrit vraiment comme le garçon dont tous les garçons de sa génération rêvaient d'être. Enfin, une sorte comme ça d'idéal masculin de l'époque. Et puis, il y a le tournage de Bande à part de Godard. Il a une théorie qui est assez belle sur Godard, Claude Brasseur. Il dit qu'en fait, ce qui importe à Godard, c'est le tournage comme expérience vécue et pas tellement le résultat, pas tellement le film. Ce qui est une théorie discutable, parce qu'on peut penser que le résultat chez Godard est souvent assez génial. Mais c'est vraiment assez opérant et assez intéressant quand même, cette idée qu'il fait des films pour les tourner. Avant tout. Et puis il y a évidemment le film culte d'Yves Robert, Un éléphant, ça trempe énormément, où il raconte aussi la manière dont il s'est battu pour imposer à Yves Robert un personnage de gay viril, c'est-à-dire aux antipodes du stéréotype de l'époque qui était La cage aux folles. Il tenait absolument ça, à créer le premier gay viril du cinéma français. Donc c'est un livre extrêmement vivant, souvent très malicieux et très amusant et vraiment très touchant.
Un commentaire, Jean-Charles Hu ?
Ah oui, enfin, j'en aurais plusieurs, alors je ne sais pas si je peux me permettre, mais par rapport à Pierre Brasseur, moi je suis un très grand fan. Moi, Les Enfants du Paradis, c'est vraiment une très très grande référence. Et j'apprends donc que finalement, en tournant Les Enfants du Paradis, il finalement était dans la même situation que ses ancêtres.
Voilà, qui son grand-père. Ouais.
Voilà, bon, ça je trouve ça très superbe. Ça me ramène à Franju aussi, Pierre Brasseur, parce que ça, c'est un des grands, pour moi, des grands réalisateurs français dont on parle jamais assez, qui lui aussi a pu se mouvoir du documentaire, la fiction la plus parfois très lyrique. Bon, ça c'est génial. Et puis très bon souvenir quand j'étais gamin, à la fois de Vidocq,
ah ben,
il y avait
Vidocq,
quelques petites échappées comme ça un petit peu surréalistes de temps en temps, ça je trouvais ça super. Et puis Un éléphant, ça trompe énormément, ça nous a tous marqué, et son rôle, c'est vrai que c'était la super idée, quoi, même, comme la super idée.
Bruno Dumont, Claude Brasseur.
L'anecdote sur le fils et sa mère est assez terrifiante quand même.
Oui, c'est vrai.
Donc de l'avoir autant déchiré et jalouse. Mais il y a ça dans les acteurs. Il y a une cruauté en même temps, et c'est absolument extraordinaire, que je comprends.
Le rendez-vous.
Pas trop bienvenu ici. Hein.
Ouais, pas trop bienvenu.
Hein. Pas trop bienvenu. Hein. Nous, on veut la petite vie tranquille, on veut plus la vie d'avant, c'est fini tout ça.
C'est terminé.
Plateau BM avec vous, Jean-Charles Hue, cinéaste. Vous signez votre deuxième film, Mange tes morts, tu ne diras point. C'est le titre exact. Hein. Mange tes morts, en tout cas, c'est l'insulte suprême dans le monde des gitans. Vous avez tourné dans une communauté yéniche du nord de la France. C'est la famille Dorkel que vous retrouvez donc pour ce deuxième film. Cette fois, vous vous centrez sur Jason, 16 ans, à un moment crucial de son existence. Deux jours et une nuit, rythmé par le retour de son grand frère Fred, qui sort de 15 ans de prison. Un mastodonte qui arrive donc dans ce camp. Les retrouvailles vont donner lieu à une double initiation entre Churav et spiritualité. La bande-annonce.
Alors, elle sort ?
Qui ?
Bah, ton frère.
Oui, il va sortir.
Il a pris combien ?
15 ans.
Tu vas faire des conneries encore ?
Non, pourquoi ?
Ah, allez, nickel !
Non, j'en fais combien ?
Une, deux. Donne tout ce que tu peux, faire. 90. Il va essayer, la chie.
Bon, pral.
T'as toujours 19 ans dans ta tête ?
Toujours, toujours.
Pas trop bienvenu ici. Hein.
Ouais.
Pas trop bienvenu. Hein.
J'en ai rien à foutre de la société. J'ai fait 15 ans, j'ai payé. Maintenant, la société, j'encule.
La vlave a surprise, mon pral.
Sur mes morts, mon alpina.
On va se taper un petit run, les gars.
On va voir ce qu'il y a dans le ventre.
Je vous propose quelque chose, si vous voulez. Un petit tour dans un bar que je connaissais. Chez Colette.
Quand même, moi, ça m'énerve. On est parti pour aller au camion de cuivre et tu veux encore aller au bar.
Et puis toi, comme tu bois, tu sais faire que du dégât.
Salut les chevilles. Vas-y, mon pral, pas quitte les quatre pieds, mon pral.
Tu sais, mon frère, ma vie, il faut payer sa dîme. Tout jour à heure, tôt ou tard, il paye sa dîme. Et moi, ma croyance, c'est ça.
Lucille.
Peut-être une question d'abord sur la spécificité de cette communauté que vous filmez, les Yéniches. Quelle particularité ils ont ?
La particularité, moi, ce qui m'a surpris en les rencontrant, parce que j'allais un peu comme ça sur les traces de mon arrière-grand-père qui était vanier et yéniche. Je savais à peine d'ailleurs qu'il était yéniche, mais bon, disons que je découvre cette population et puis j'y viens avec aussi, moi aussi, mon stock de stéréotypes par rapport à mon tzigane. Et puis j'ai découvert peu à peu que finalement, cette population qui est très grande en France, hein, admettons qu'il y ait 400 000 voyageurs, on va dire qu'au bas mot, la moitié sont des yéniches et l'autre moitié sont tziganes, c'est-à-dire issus d'Inde, ils viennent d'Inde, alors que les yéniches, eux, viennent d'Europe centrale. Donc c'est la particularité, c'est un peuple européen finalement, et j'ai envie de dire même c'est nos ancêtres. Moi je pense qu'autour de notre table, d'une manière ou d'une autre, on a eu forcément à un moment donné un parent yéniche. Et ce qui m'a frappé rapidement avec les années, c'est que d'abord, j'ai appris à les découvrir. Et puis après, je me suis dit, mon Dieu, il y a deux bouquins qui se battent en duel d'anthropologues sur eux. Voilà, ils ont été laissés pour compte, ni plus ni moins, malgré leur quantité, malgré leur importance dans ce pays. Et voilà, donc, d'une certaine façon, le film, ensemble, on essaye de on parle de nous, quoi, avant tout, là-dessus. Quoi. On parle de... voilà.
Alors, vous retrouvez pour la deuxième fois, donc, pour ce film, la famille Dorkel, qui sont devenus vos acteurs de cinéma. Comment vous les avez rencontrés la première fois, en fait ?
Eh ben, je cherchais donc une certaine famille Dorkel que je ne connaissais pas, qui était, j'avais découvert entre-temps grâce à mon oncle Raymond, aujourd'hui décédé, qui avait croisé sur la route des parents, qui étaient eux restés nomades. Hein. Nous, on s'était sédentarisés de mon côté. Et puis, je suis parti, j'ai envie de dire, avec ce prétexte sous le bras. Parce qu'à un moment, il faut inventer sa vie. Puis, vous savez, les tziganes, les voyageurs, inventent leur vie aussi. C'est des grands inventeurs d'une forme de noblesse. Quoi. Ils ont beaucoup d'imagination pour ça. Et moi, c'était un moment dans ma vie où j'avais envie de m'inventer une vie, une aventure, avoir un devenir. Alors pourquoi pas un devenir voyageur ? Ça m'a donné un prétexte et je les ai rencontrés un jour. J'ai fini par trouver une famille Dorkel. Aujourd'hui même, on n'est même pas sûr d'être la famille Dorkel la même, c'est-à-dire d'avoir le même sang. Mais ce sont eux qui m'ont ouvert les bras. Et puis, depuis, je n'ai pas eu envie
de filmer d'autres personnes. Lucille.
Alors, quand vous décrivez votre première rencontre avec cette famille, vous parlez d'un immense camp, de milliers de personnes, d'animaux de cirque au milieu, même d'une messe géante, parce que c'est une population qui est évangélique. Donc, c'est d'abord des images saisissantes. Est-ce qu'il y a eu une image qui a pu déclencher ce projet de film ? Une image que vous vouliez filmer ?
Ce serait, je pourrais pas dire une parce que c'est pas possible. C'est vous parlez en fait là, cette description qui n'est pas le terrain de la famille d'Orkel à l'époque à Pierrelaye. Voilà, c'est un des premiers grands chocs que j'ai. C'est-à-dire que avec eux, au bout de 3 semaines, alors je les connais que depuis 3 semaines, chose exceptionnelle, ils me font rentrer dans la famille. Je rentre dans la caravane, ce qui est pas toujours évident. Et on part on part ensemble dans les missions évangéliques. Effectivement, j'arrive à Gien, où à l'époque il y a 10 000 personnes, enfin, c'est une mer de caravanes. Et puis d'un coup, la première chose que je vois, c'est le cou d'une girafe qui dépasse d'une mer de caravanes. Et là, je me suis dit, attends, c'est pas possible. Non seulement je suis plus en France, mais j'ai eu rapidement l'impression d'être en compagnie d'un peuple, enfin, pas élu ou pas, mais enfin, avec Moïse, en compagnie de Moïse, et de me déplacer à travers le désert avec des animaux. Enfin, bon, voilà, lui, il n'avait pas d'animaux, ou très peu. Mais voilà, entre Noé, on va dire, et Moïse, quoi. Bon, c'était un choc, un choc magnifique. Et par rapport à ce qu'on disait même tout à l'heure, M. Dumont, par rapport à une forme de mystique, moi, la mystique, comme dans ma famille, du côté de mon grand-père ou de ma grand-mère, c'est l'ordre de l'épiphanie. C'est toujours quelque chose qui est lié avec eux au réel. C'est-à-dire que ça arrive là, en plein milieu du réel. Et c'est ça qui m'a toujours, qui me touche énormément. Et qui, voilà, moi, j'ai toujours cette phrase de Thérèse d'Avila dans la tête qui dit « Si tu veux trouver Dieu, cherche-le entre les marmites. » Voilà, je trouve ça, cette phrase magnifique. Voilà.
Et c'est ce que vous mettez d'ailleurs en scène avec une scène de baptême qui est, on va dire, le point d'acmé de votre dernier film. Alors, j'ai lu que le tournage n'avait pas été facile, souvent menacé d'être même interrompu par des bagarres, des embrouilles entre les acteurs. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez senti que le tournage pouvait vous échapper et que le film se faisait sans vous ? Et que ça pouvait être ça qui était intéressant cette fois, Jean-Charles Hue.
Ça nous est arrivé de nombreuses fois. Généralement, sauf la première fois, ça n'a jamais été du fait des acteurs ou du clan gitan. C'était curieusement une agression venant de l'extérieur. Que moi, malheureusement, je mets ça plutôt sur le dos presque de l'époque, c'est-à-dire cette obsession du quart d'heure warolien, où beaucoup de gens qu'on a croisés sur notre route, curieusement, à part une bourgeoise dans son 4x4 qui nous a félicités pour le simple fait de faire du cinéma, tout le monde nous a un peu rentré dedans, nous a un peu pourri la vie, c'est-à-dire « je suis pas dans ton film, alors je te pourris ». Bon, ça m'a beaucoup surpris, je dis sincèrement, quoi. Et donc les gitans, qu'il ne faut pas leur dire deux fois quelque chose de désagréable, ont vite répondu négativement par rapport au genre de proposition. Donc on a eu des bagarres, on a eu des choses comme ça, on a eu des moments assez étonnants où effectivement, comme dans la discothèque, la scène de la discothèque, il y a une bagarre parce qu'ils défendent quelqu'un qui vient de se faire frapper par une bande de mecs un peu ivres. C'est Tintin, un de nos amis et acteurs. Et puis, donc, il se bagarre, il est 6h du matin, il faut vite finir cette scène, tout le monde n'en peut plus. Et je hurle en disant, allez monter dans la bagnole, et ils doivent tourner une scène de bagarre, mais une fausse cette fois-ci. Et ils ont enchaîné littéralement, une vraie bagarre avec une fausse bagarre. Et bon, ça, c'était un moment... sur le moment, je ne la ramenais pas, j'étais assez... voilà, mais ça fait partie aussi d'une chose que je recherche. On dit à propos de Godard, est-ce que ce n'est pas le tournage qui compte le plus ? Moi, je pense que dans mon cas, c'est sûr, c'est très important de se retrouver, pas forcément dans la bagarre, mais se retrouver dans la vie. Voilà. Et ça, c'est sûr que le film l'a croisé plus d'une fois. Vraiment pour... j'ai envie de dire le bien de tous, parce que c'est ça aussi, le cinéma. Ce n'est pas qu'une chose coupée du réel.
C'est une chose que vous comprenez, Bruno Dumont ?
Ou que oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille tellement, on prépare tellement, il y a quelque chose d'un peu mort dans ce qu'on fait, qu'il faut que le hasard revienne absolument, parce qu'il faut que la caméra capte le hasard. Donc le hasard, c'est l'accident, et l'accident, c'est ce que vous racontiez par exemple, ou autre chose. Mais on se bat aussi contre ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réanime en fait la vie, et on est figé dans des cadres, dans des rails, dans une préparation, on attend la lumière, tout ça. Donc il y a des rapports comme ça qui sont assez violents, assez contraires. Il y a des événements qui ont lieu comme ça et qui deviennent formidables, qui deviennent magiques, mais à la limite... tout était prêt pour ça, quoi.
Lucille Comeau.
Jean-Charles Hue, il y a une virtuosité dans la façon que vous avez de filmer, en particulier les scènes de voiture. Toute la nuit centrale dans le film se passe dans la fameuse Alpina, que vous ne vouliez pas filmer de l'extérieur dans un chariot. Vous vous teniez absolument à être en caméra embarquée. Ouais. Qu'est-ce que ça permettait de faire de plus ?
Moi, je dans la continuité de ce qui vient d'être dit, j'étais pas très fan de l'idée de me retrouver sur un chariot, comme on dit en cinéma, hein, c'est-à-dire
à côté.
Voilà, à côté, on fait semblant de filmer, on accroche les caméras, enfin, etc. Mm. En fait, semblant de conduire. Et puis en plus, l'idée qu'il fallait bien sûr bloquer toutes les routes. Bon, c'était une partie de sécurité, pas que pour nous, mais surtout pour les autres. Hein. Bon, on a trouvé des solutions dans les zones industrielles à 5h du mat, quand il a fallu un peu appuyer sur l'accélérateur. Mais bon, moi, je cherche aussi la surprise.
Donc, alors, qu'est-ce que vous avez inventé donc comme
excusez-moi. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez inventé comme procédé bon, pour pouvoir filmer
parce
à
que
l'intérieur
c'est ça, le cinéma, justement, c'est que quand même on est surtout une équipe, hein, une ouais. communauté. Hein. Et donc, je me suis retrouvé avec un super chef-op, Jonathan Ribourg, qui à ce moment-là, 25 piges, il sort à peine de chez Louis Lumière. Et ce gars-là, équipé de son pote Julien, qui fabrique ses propres lumières. On s'est dit, on a une problématique, ce qui est quand même pas sympa au cinéma, c'est de se dire, on va rester dans une bagnole une bonne partie du film, et de nuit, qui plus est. Et bon, comment rendre tout ça attrayant, avec des changements, des choses comme ça. Et Jonathan, qui est une espèce de gabarit comme ça, de gars qui aurait pu faire du cirque, du trapèze, un poids léger, s'est retrouvé, ce qui faisait presque rire les gitans, assis sur la boîte de vitesse, et dans des positions, parfois, comme on avait le pare-brise brisé, puisque dans le film, le pare-brise est souvent brisé, il se retrouvait carrément sur la plage arrière à des vitesses indignes. Et il a réussi donc à avoir des angles de caméra improbables. Mais il savait qu'il prenait beaucoup de risques. C'est pas moi qui lui ai forcé, il en avait décidé ainsi. Il disait je suis fou, mais bon, on y va quoi.
Lucille.
Je reviens sur le travail du chef opérateur. Je sais que vous vouliez une lumière pour les extérieurs, une lumière à la Cimino dans Voyage au bout de l'enfer, justement dans certains extérieurs de Cimino. C'est-à-dire
Ça me fait. Excusez-moi. Ça me fait. dit comme ça, ça paraît super.
Oui, bah, ambitieux, ça, voilà. mais ça l'est. Dans le film, ça l'est.
Ça, c'est vraiment c'est de l'espérance. Ça, c'est, voilà, quand on aime un film, moi, bon, Cimino, The Hunter, c'est peut-être mon film, je sais pas. Enfin, quand je dis.
Et au niveau de la lumière, qu'est-ce qui se joue dans ce film pour vous?
Qu'est-ce qui joue dans ce film? Ouais. C'est voilà, c'est il plane en permanence quelque chose nous, on n'avait pas les montagnes, c'est pas la question. C'est il plane quelque chose de merveilleux. Il est en état de grâce, et bien sûr, pas qu'à cause de la lumière. Mais j'avais des obsessions de certains plans comme ça, où je voyais arriver De Niro lorsqu'on lui organise une fête et puis il n'y va pas, puis il arrive au petit lever du soleil, il se dirige incognito presque vers le mobilhome. On voit la ville, les échappées de fumée, une lumière blanche, enfin une lumière qui dit, voilà, comme si une petite épiphanie qui se baladait quelque part. Et en même temps, tout est cru, tout est pauvre, tout est... Voilà, c'est ça que je... Toujours cet équilibre que avant le cinéma, j'ai trouvé dans parfois dans des peintures. Moi, je suis un grand fan de Bruegel. Voilà, c'est comment arriver à filmer une scène paysanne ou de simples gars qui reviennent du Vietnam pour entrer dans un mobil-home à la con, mais et dire que dans cette image qui pourrait, dans certains cas, être pauvre, il y a quand même quelque chose qui est en train de transcender tout ça. Voilà, mais c'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux, c'est pas qu'on y réussit, mais si on se motive pas par cette chose-là, vous voyez ce que je veux dire, c'est un désir. Et ce qui compte, c'est le désir, souvent. C'est pas forcément de réussir, justement, c'est de l'avoir, ce désir, quoi.
Est-ce que la peinture était aussi à l'origine de la lumière pour Petit Quinquin, par exemple, pour les scènes de paysage, pour Nos Dumont?
Oui, moi je suis plus peinture que cinéma en général. Hein. C'est-à-dire que je prépare beaucoup en regardant des tableaux, parce que d'abord le tableau est à l'arrêt, donc c'est plus facile à regarder. Et ça m'inspire beaucoup sur les équivalences que ça peut avoir sur le cinéma. Et effectivement, c'est souvent en affrontant le cru qu'on va voir que la grâce va monter de là. En fait, c'est assez curieux parce que c'est très paradoxal ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est souvent dans les trucs les plus quelconques, les plus pourris. Il y a tout d'un coup quelque chose qui va monter et que va faire le cinéma. Et donc, il ne faut pas filmer la grâce parce que ça ne se filme pas, c'est ridicule, c'est idiot. Et même pour les voitures, moi, je me suis battu contre la production qui ne voulait pas que Carpentier conduise parce qu'il ne sait pas conduire. Et donc, il ne voulait pas le lâcher.
Mais ça se voit, qu'il ne sait pas
sur les
conduire.
Routes parce que c'était dangereux.
Bien sûr.
Mais c'était extraordinaire de le lâcher et de le laisser conduire parce que le comique était là, en fait.
On vous a demandé, vous aussi, Jean-Charles Hune, d'apporter votre son. Voici ce qu'on écoute.
Papa, je t'aime bien, tu sais. Je vous ai dit, je t'aime bien.
Mais moi aussi. Pourquoi m'as-tu dit tout ça?
Je sais pas. Je vois que tu t'occupes de moi, hein, que tu te fais du souci à cause de moi, alors... Ça me fait penser que je t'aime bien.
Bien sûr.
Bonsoir. Hein.
Bonsoir. Mon fils. Mais tu t'es. Des fois, je dis que tu m'empoisonnes l'existence. C'est pas vrai.
Est-ce que c'est le bon son, Jean-Charles?
Ouais, super.
Ah Dieu soit loué. Identification de ce son.
Donc voilà, c'est le premier opus de la trilogie de Pagnol. Donc c'est pas filmé à l'époque par Marcel. Donc c'est le premier opus qui s'appelle Marius. Et voilà, donc César, le fils, est sur le point de prendre un bateau. Voilà. Et il se fait gentiment guirlander depuis le début du film. Enfin. Comme on peut l'imaginer par un mec comme Rému, etc., un peu la Marseillaise, voilà, qui en fait toujours un peu trop.
Et la raison de ce choix, pour vous?
Alors, la raison de ce choix, alors, pour moi, c'est... Bon, d'abord, c'est un souvenir magnifique de mon enfance devant la télé de mes parents. En plus, je pense... pour moi, c'est vraiment... Excusez-moi.
Oui, je vous sens ému.
Ah, chou.
Eh bien, on aura compris, je crois, ce qui peut se jouer là.
Je filmais à la fois le chocolat et le caramel, et le moment où le chocolat est monté sur le caramel.
Bon, c'était un choc, un choc magnifique.
Et émotionnellement, j'étais bouleversé.
C'est ça la grâce. Merci à nos invités. Bruno Dumont, Petit Quinquin, les deux premiers épisodes, c'est demain sur Arte. Je signale que l'intégrale de vos films devrait sortir le 21 octobre chez Blackout. Jean-Charles Hue, Mange tes morts, est sorti en salle aujourd'hui. Il y a une deuxième partie du titre.
Tu nous diras pour.
Exactement. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Comment devient-on collectionneur? Et je réponds sans hésiter, on n'en sait rien.
On n'en saura pas plus demain avec nos amis, les artistes Gilbert and George et le galeriste Antoine de Galbert. Des annonces, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilotte. Journal de la culture, Zoé Sfez. Chronique, Jean-Marc Lalanne. À la technique, Jacques Hubert, Vincent René. Et à la réalisation, Thomas Beau.
Il est encore 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre, ce soir à 20h15 sur France 5.